j'ai comme une crise d'allergie intense, c'est ça.
Un, deux, trois, quatre, mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Denis Talbot, bienvenue à cette autre page de ma vie baptisée. Hey, je m'ennuie de l'équipe que j'avais avant. Je suis avec Alain McKenna, mesdames, messieurs, qui sera avec nous en direct de l'autobus du show business. Il y a eu l'autobus du show business, mais également l'autobus d'Alain McKenna qui se conduire maintenant, oui, en bus. Un bus particulier avec des amis nippons qui ont le rhume. Vous allez le constater au cours des prochaines minutes. Salutations à tout le monde qui est là ce soir. Norubit 204, ça va super bien. Wolfstorm, salutations. Dan, 25 000, allô. Salut Fairwind. Michel Leclerc, salutations aux affonés. Bienvenue. Il y a Marie-Ève également qui est là ce soir. Frankie Do Space. Faites un petit F5, tout le monde. Faites un petit F5. On est de retour. On n'était jamais parti, en fait. C'est juste pour vous titiller un peu. Comment ça va, tout le monde? J'espère que vous êtes en forme. Il y a un gros show ce soir, Radio Talbot. Yeah, yeah. It's a big show, you know. Parle en anglais, parce qu'il y a peut-être du monde en anglais, pas loin d'Alain, puis je veux les impressionner. OK, on va reculer ça une seconde. Je vais mettre ça au début de mon show. Vous allez voir bouger ça live. C'est normal. C'est normal, comme diraient certaines personnes que je connais. On est sur le point de commencer le show. Je suis tout seul à soir comme un grand garçon. Hein, ouais, et voilà. Parce que les boys avaient d'autres choses à faire, le plus important, se laver les cheveux, des trucs comme ça. C'est important. Parlant de chevelure, il sera avec nous, mesdames, messieurs, l'homme à la tignasse assurée à la Mutuelle de Londres. J'ai nommé Alain McKenna, auteur, bientôt compositeur peut-être, je ne sais pas. Un homme à mille talents qui fallait faire un tour à la conférence de Microsoft hier. Et aujourd'hui, tellement jet set, il est à Cupertino. Il a été faire un tour du côté de Cupertino, voir justement les nouveaux produits Apple. On vous en reparle. Merci beaucoup à qui donc, à SKA666 qui nous rediffuse sur son site. Merci beaucoup. Max Liseux est là, pêche sur le piton. F5, et à savoir, ça va bien aller. Norubit 24 est avec nous également, sans oublier Nation SWG. Rien de tel qu'une tignasse propre, nous dit cet homme. Effectivement, parce que dans la vie comme au hockey, tout se passe dans les cheveux. Vous le savez, Vincent Danfousse nous en a parlé longuement. Alors, ce soir, on vous présentera également la conférence. En fait, c'est plutôt l'échange qu'on a vécu au Comic-Con de Québec sur la scène devant un public en délire. On a eu beaucoup de plaisir, ça me rappelait bon souvenir, cet échange avec vous tous et toutes qui êtes venus nous voir. Donc, on a un meilleur son, on a refait le son complet et vous allez voir que ça vaut la peine d'être écouté. On s'est amusé beaucoup. Allez-vous parler du casque VR de Microsoft à 299? Pas question. Ben oui, on va en parler, c'est sûr, c'est sûr. C'est quand même un casque qui semble bien ben cool. Est-ce que ça va prendre une machine de fou pour l'opérer? On verra. 299 pour le casque, 4000 pour la machine. C'est ce qu'on verra. Ça semble une belle alternative. Alain McKenna l'a vu. Non, une Orbit, c'est vraiment pas cher. On va en reparler dans un instant. On part ça tout de suite. Stand by. Ceux qui sont en retard, too bad.
Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé?
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire, déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire, en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votreconseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votreconseiller.net. Une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
On est avec Alain McKenna. Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services. Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radiotalbot@gmail.com. Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio. Les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mogodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC,
votre référence pour votre solution informatique.
Salut tout le monde, c'est Albo. Bienvenue à cette autre page de ma vie baptisée Alain Mekena. Il est là-bas et nous attend dans son autobus. Il est allé faire un tour. Alain Mekena, je vais faire un beau petit mix dramatique, histoire qu'on te voit bien à la binette. Attention, mesdames et messieurs, vous l'aimez, vous êtes dans un tunnel. T'es dans un tunnel ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On te voit à peine dans ton boss.
Ouais, je suis dans l'air de la bus, comme ils disent à Sorel. Ça fait que c'est une navette qui nous ramène. Du campus de Cupertino, du campus de la Pôle de Cupertino, vers l'hôtel. Le campus qu'on a visité probablement pour la dernière fois, parce que le nouveau campus, l'espèce de d'OVNI, va ouvrir d'ici qu'il y ait une prochaine conférence de la Pôle à San Francisco.
Donc, oui, ça brasse chez vous, dans ton chauffeur, que ça va?
Il y a de l'action. Il y a des turbulences.
Donc, tu es allé faire un tour à ce keynote d'Apple aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans tout ce que tu as vu?
Bien, évidemment, c'est le Touch Bar, la nouvelle fonction. Parce que là, on présentait un nouveau MacBook Pro. Ça faisait 2 ans qu'Apple n'avait pas présenté un portable rafraîchi de façon substantielle. Puis le gros modèle dans la gamme, c'est évidemment le MacBook Pro. Puis sa grande nouveauté, ça avait déjà fuité sur Internet. C'était l'espèce de barre tactile qui apparaît là, en haut du clavier, qui remplace les touches de fonction. Donc, je suis désolé pour tes auditeurs qui vont devoir presser F5. Parce que s'ils s'achètent un nouveau MacBook Pro, il n'y a plus de touche F5.
Il avait lancé cette bande-annonce, là, histoire de nous titiller, où on voyait d'ailleurs cette... vous allez voir ça dans quelques instants, Alain, dans un tunnel. Donc, voilà. Donc, on nous avait, avec le Hello Again, une petite taguiche de 15 secondes qui nous disait, « Hey, on va vous présenter quelque chose de très, très cool, vous allez voir. » Finalement, ce que c'est, mm-hmm. c'est une petite bande qui nous permet de glisser le doigt et de passer d'application en application, je ne me trompe pas. C'est ça, Alain?
C'est c'est comme une barre de commande rapide en fait qui se personnalise et puis qui se modifie selon l'application dans laquelle on se trouve. Donc on peut aller chercher des fonctions rapides, par exemple dans ils ont montré Final Cut Pro. On a toutes sortes de fonctions d'édition à ce niveau-là. T'as des jeux qui pourraient aussi profiter de ça pour avoir des actions rapides, changer d'arme dans des jeux, dans des first shooters par exemple, pourrait devenir aussi simple que d'appuyer juste sur l'icône en fait de l'arme en question. C'est une bande de Retina, donc c'est une bande graphique complète, pleine couleur. Comme imaginez l'écran d'iPhone qui serait extrêmement étroit et qui ferait la largeur du clavier et qui est tactile, donc de gauche à droite. Donc on peut glisser le doigt, mais on peut aussi taper sur des fonctions rapides. Et puis c'est personnalisable jusqu'à une certaine mesure, là, mais ça permet d'accéder à des fonctions rapides comme si on avait une barre dans le fond de raccourci, comme dans une ancienne version de macOS. Là.
Intéressant. On peut également payer maintenant avec une empreinte digitale et on voit ce qu'on achète, la description. Ça aussi, c'est cool quand même.
Oui, il y a Touch ID qui fonctionne, là, c'est dans le coin de la bande à droite. Ce qu'on peut faire avec ça, évidemment, on peut payer directement avec Apple Pay dans les applications web, en fin de compte. Mais on peut aussi s'authentifier au lieu de rentrer le mot de passe quand on démarre l'ordinateur. On met son doigt, on met soit sur l'index ou le pouce ou peu importe, puis ça nous reconnaît. Si on a plusieurs comptes sur l'appareil, ben automatiquement, le MacBook Pro va reconnaître le doigt, finalement, qui est scanné, puis il va identifier la bonne personne en conséquence.
Est-ce que c'est une belle évolution, Alain, des MacBook Pro? Est-ce que tu as été, à part cette bande-là, est-ce qu'au niveau de ce qu'il y a sous le capot, c'est intéressant?
Bien, c'est des produits très performants. La fiche technique est assez costaude. Malgré tout, l'appareil reste assez compact. Il est beaucoup plus petit que le modèle précédent. Avec les ports Thunderbolt aussi, puis tout ça, ce qu'Apple propose, c'est une machine de productivité, mais vraiment pour des gens qui ont besoin, c'est vraiment d'une grosse machine. Là. C'est pas seulement pour aller sur le web et faire du traitement de texte. C'est vraiment pour faire de l'édition vidéo, faire de la programmation intensive, faire des trucs extrêmement pointus.
Est-ce que ça se compare à ce que tu as vu chez Microsoft? Est-ce qu'on est dans la course ou on a regardé un peu ce qui s'est fait chez Microsoft et on s'est dit tout bad, on lance ce que nous on a lancé?
On s'en va un peu ailleurs parce que tu vois ce que Microsoft a proposé hier, il y a une logique, là, mais c'est vraiment différent. Ce que Microsoft proposait, c'est un ordinateur tout en un de bureau avec très grand écran tactile. Donc, tout l'écran tactile, ça, c'est pas nouveau du côté de Microsoft et des produits Windows. Ça fait des années. Ça fait des années qu'Apple résiste. Donc, Apple, ce qu'ils proposent, eux, c'est une formule différente, une façon de simplifier l'interface. Mais cette notion d'interface-là, donc l'interaction qu'on a avec l'ordinateur, n'est pas seulement remise en question par Apple, parce que hier, Microsoft, avec sa grosse rondelle, là, qui appelle le Surface Dial, l'espèce de grosse molette qui permet de contrôler les appareils Surface, c'est exactement la même logique. C'est comment on peut aller au-delà de la souris et du clavier pour faciliter l'interaction avec l'ordinateur. La barre tactile, le touch bar du MacBook Pro, le fait à sa façon. Ça rappelle la fonction de faire sur un appareil iOS, sur iPad, sur iPhone. Du côté de Microsoft, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment, ça remplace même la souris et le clavier, si on veut. Mais dans les deux cas, il y a vraiment une volonté de personnaliser, disons, la façon qu'on interagit avec l'ordinateur. T'sais, on ne peut plus, à ce stade-ci, utiliser un ordinateur Mac comme on peut utiliser un ordinateur Windows, qui était à peu près similaire. Pourtant, il y a déjà un an ou deux à peine.
Mais on remarque également que le mot Windows et Microsoft a été prononcé, encore une fois, dans la conférence d'Apple. Ça semble être une nouvelle tendance. Hey, mon Dieu, ça va bien, Alain? Est-ce que tu es correct?
Il y a de l'action.
Il y a de l'action. Donc, oui, Microsoft qui a fait des associations donc avec nos amis d'Apple aussi pour différents logiciels. Hein?
Oui. Bien, Microsoft, ils ont cette approche universelle là, où on est vraiment du côté logiciel, en tout cas, sur toutes les plateformes possibles. On parlait hier après la conférence de Microsoft. Est-ce que Microsoft est le nouveau Apple? Il y a de quoi réfléchir parce que Microsoft est partout et en plus vend ses propres produits. Donc, ils ont vraiment une approche assez agressive, puis ça semble fonctionner parce qu'ils sont en train de retourner leur image de bord. Les gens voient Microsoft comme le nouvel innovateur. Et là, aujourd'hui, malgré l'annonce du MacBook Pro, qui est quand même une super machine, les gens voient Apple comme, bon, on s'assoit sur nos lauriers, puis on y va conservateur. Là,
c'est ça, c'est le feeling.
C'est étonnant de voir le contraste.
D'ailleurs, les iPhone 7, au niveau des parts de marché, tout ça, même à la bourse, ça semble avoir baissé un peu. Il n'y a pas l'engouement qu'on aurait espéré, n'est-ce pas?
Oui, bien dans le secteur techno, on cherche toujours l'innovation puis l'espèce de feeling, l'espèce de sensation de start-up continuelle. Puis c'est ce qu'Apple offrait en lançant un nouveau téléphone à une époque, une nouvelle tablette à une autre époque, des machines tout le temps relativement révolutionnaires. Puis là, depuis quelques générations, on semble être plus conservateur. Microsoft, avec des nouveaux produits, un nouveau système universel, parle d'intégrer la 3D jusqu'à l'impression 3D dans Windows. On sent que l'innovation est du côté de Microsoft en ce moment pas mal plus que du côté d'Apple.
Ils sont en train de se créer, Microsoft, corrige-moi si je me trompe, une espèce d'écosystème 3D. Ils sont même arrivés avec ces lunettes qui sont des lunettes qui sont, comment ils appellent ça, mixed reality, une réalité virtuelle.
Mixed, oui. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses?
Ils visent sur la 3D au centre très large. Ils voient probablement potentiel du côté du jeu.
Attends un petit peu, on semble être dans un tunnel ou probablement en dessous d'un truc d'hôtel. On t'entend mal.
Ah, ça se peut, ça.
OK.
Marquise, bien désolé.
Oui, mais répète ça. Donc, qu'est-ce que tu nous disais?
Oui, c'est ça. C'est qu'ils vont très large dans la 3D. Parce que justement, ils ont présenté une application qui permet de numériser les contenus réels, donc les transformer en application ou en des thèmes virtuels 3D. Et à partir de là, on peut justement les reproduire dans des environnements virtuels logiciels, mais aussi en sortir une espèce de fichier qu'on peut imprimer et reproduire. Et jusqu'au virtuel donc mixte avec les HoloLens, tous les appareils vont être compatibles avec cette forme-là. Il y en a présenté quelques-uns. Ça va être intéressant de voir où ils s'en vont. Effectivement, ils couvrent toute la 3D.
OK, Alain,
je pense que ce qu'ils veulent, Alain? Parce qu'on sentait hier avec Microsoft.
Ça coupe beaucoup, Alain. À deux secondes, on va attendre que tu bouges. Je ne sais pas si tu m'entends bien, toi, mais moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont sorti. J'ai eu l'impression qu'ils ont sorti ces lunettes-là en réponse des lunettes qui ont été lancées récemment par nos amis de Sony. Ils disaient, regarde, nous autres ici, on est là, puis on a une paire qui coûte bien moins cher que ça, puis on n'a pas besoin de gizmo, tout le kit. Mais est-ce que ça va prendre un ordinateur hyper puissant pour ces lunettes-là? Ou si on a juste dit, regarde, on a les lunettes, nous autres aussi, puis vous verrez comment ça va marcher plus tard?
Il va falloir voir.
Non, ça marche.
300$, c'était des appareils qui se branchaient dans un ordinateur normal. Donc, ça va être le fun de voir justement. Évidemment, ça reste à venir parce que ça a été annoncé pour le printemps prochain. Mais de voir comment tout ça va fonctionner. Ça va être à travers Windows 10, ce qu'il y a pas le Creators Update. Ça va être intéressant de voir ça, effectivement. Ce qu'on présume, c'est que ça ne coûtera pas une fortune parce qu'ils ont vraiment insisté là-dessus. Dire non, on ne veut pas que ça coûte très cher. Donc, à partir de là, on verra bien.
Donc, ça sera une version édulcorée de peut-être des prochaines lunettes HoloLens, une version plus grand public, probablement?
Oui, bien, ils ont des partenaires, tu sais, Dell, HP, tout ça, vont fabriquer des appareils plus abordables. Le HoloLens reste une espèce de produit très haut de gamme. C'est un peu la stratégie de Microsoft. Nous, on fait des produits haut de gamme, puis on laisse nos partenaires faire des trucs plus abordables. Ça va être la même logique avec les HoloLens. Ça va être la réalité mixte, ça va coûter très cher, mais la réalité virtuelle et le 3D, là, comme on a vu hier, va être relativement abordable à travers, évidemment, un PC animé par Windows.
Si on revient chez Apple, au niveau du nouvel OS, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont renversé ou t'as dit « wow »?
Bien, Sierra a déjà été présenté il y a quelques semaines. On a vu des modifications. L'intégration, ce qui me déçoit, l'intégration entre iPhone et MacBook a été poussée plus loin avec le nouveau MacBook Pro qui a des ports Thunderbolt.
Oups, attends un petit peu, ça a coupé.
On achète un iPhone, il n'y a pas de port Thunderbolt. On ne peut pas brancher l'iPhone.
OK, attends un petit peu, Alain, c'est vraiment... On va attendre que tu repartes, parce que là, ça ne roule pas. Entre-temps, les gens qui sont avec nous, si vous avez des questions à poser à Alain, petite question courte, le temps que... Ah, ça semble démarrer ton affaire, Alain, là, je ne sais pas.
Ça bouge, oui, vous me dites.
OK, ah, c'est bon, ça, on te voit, là. Donc, si vous avez des questions... Oui, si vous avez des questions à poser à Alain, gênez-vous pas, je vais essayer de les prendre en même temps. Donc, Alain, tu disais que le casque, c'est pour... L'intégration des ports Thunderbolt n'a pas été faite pour l'iPhone, ça, tu disais, puis il n'y a pas de connectivité entre les deux avec ce nouveau fil, si
on veut. Oui, bien, tu sais, on parle tout le temps du fameux écosystème Apple, puis comment est-ce que tout est intégré, tout marche ensemble avec une certaine transparence. OK. C'est étonnant, c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu MacBook Pro qui est un produit développé dans son coin, l'iPhone 7 qui est un bel iPhone, mais qui est quand même aussi développé dans son coin. Et puis on a vu aussi en début de conférence l'Apple TV avec une nouvelle application de télé à la carte, dans le fond, mais qui est évidemment exclusive seulement au marché américain. Okay. Ça, c'est nouveau dans le cas d'Apple de pas être aussi inclusif, disons, que par le passé.
Mais ça va sûrement arriver avec les semaines et les mois, j'espère, en tout cas pour eux. On veut savoir combien de ports...
Il faut toujours être patient.
Oui, combien de ports sont disponibles? Je pense qu'il y a différentes configurations qui offrent un différent nombre de ports également pour le MacBook Pro, c'est ça?
Il y a le MacBook de base, il y a le MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces. Dans les deux cas, c'est 4 ports Thunderbolt.
Okay.
Il y a ce qu'on en anglais, on peut les daisy-chainer, c'est-à-dire qu'on peut les brancher un à l'arrière de l'autre, fait qu'il y a vraiment une capacité de connexion assez intense. Évidemment, ça prend des adaptateurs si on n'a pas des ports. En fond, Thunderbolt, c'est aussi du USB-C. Donc, si on n'a pas le câble direct, ça prend l'adaptateur, puis c'est aussi une dépense de plus.
Donc, la version 13 pouces, c'est 1500 US. La version MacBook Pro, c'est 1800 US. Et la version 15 pouces MacBook Pro est 2400 US. Donc, faites le change et vous allez voir que c'est des machines qui sont quand même chères, mais ma foi, on a quelque chose sous le capot, là. On a de l'équipement.
Ben, oui, c'est des appareils qui sont durables. Tu sais, on parle aussi, on parlait de Microsoft tantôt, le Surface Studio, le gros PC, commence à 3000 US aussi. Ce n'est pas des appareils qui sont abordables. T'sais, c'est facile à 4000 de faire un appareil extrêmement sophistiqué. Donc, ça, on peut enlever un peu de mérite aux deux fabricants à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont pas fait des appareils particulièrement abordables. Et pour nous, les Canadiens, c'est encore pire avec le taux de change.
Est-ce que, si on revient à Microsoft maintenant, le Surface Studio, as-tu eu la chance de jouer avec l'espèce de molette sur l'écran? Est-ce que tu as eu la chance de manipuler? C'est-tu un gadget ou c'est cool?
Ça ajoute une nouvelle dimension parce qu'on peut contrôler. Il y a vraiment deux niveaux de contrôle. T'sais, on tourne la molette pour faire des certaines sélections, mais une fois qu'on a fait la sélection, on peut, par exemple, faire pivoter l'image. On peut apporter certaines modifications pour faire des zoom-in, des zoom-out. Il y a vraiment une nouvelle couche d'interaction qu'on peut faire avec l'ordinateur qui va demander à être développée. Dans les jeux, il peut y avoir de l'application aussi. On peut s'en servir sur le bureau et voir ce que ça donne à l'écran. Ou on peut aussi, dans le cas de Surface Studio, en tout cas, on peut mettre le dial, donc l'espèce de grosse rondelle, directement sur l'écran. Et à partir de là, devenir une espèce de point de contrôle physique dans l'image virtuelle, finalement. Ça, c'est vraiment intéressant comme concept.
Oui, pour les graphistes, ils n'ont pas obligé de sortir du menu tout le temps. Ils restent là.
Ouais.
Ça, c'est très, très cool. On veut savoir,
absolument.
Michel Leclerc veut savoir, au niveau de l'autonomie des batteries dans les deux cas, je sais que c'est le nerf de la guerre, la batterie. Chez Microsoft, j'ai trouvé ça intéressant. On a refait l'intérieur. Puis savez-vous ce qu'on a fait? On a rajouté des piles. Fait que j'ai trouvé
On a mis plus de batterie, oui.
C'est ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis on parle de 13 heures ou 14 heures avec
Le Surface Book, qui est le portable Windows 10, il y a 16 heures d'autonomie en théorie. Évidemment, en pratique, ça change un peu. Dans le cas du MacBook Pro, qui est un autre genre de bébite, là, on parle de 10 heures. C'est quand même pas mal. C'est sûr que, 16 heures, c'est énorme. Mais 10 heures, je trouve que c'est quand même assez suffisant. Question, évidemment, d'utilisation, mais personnellement, je trouve que c'est pas mal.
Tu fais ta journée de travail et plus encore. C'est très, très cool.
Ben oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut s'acheter un ordinateur, selon toi, dans les prochains mois? Ça va, bien sûr, ça va selon le budget. Mais mettons avec un budget.
On se trouve un job très payant. Ben écoute, il faut vraiment décider c'est quoi nos besoins. Ça revient à ça, parce que là, c'est des appareils, dans les deux cas, extrêmement haut de gamme.
Ouais.
Si on a besoin d'un bureau de travail, on a des belles options. Là. Le Surface Studio, c'est un appareil de bureau. Écran de 28 pouces, ça prend vraiment beaucoup d'espace. Le MacBook Pro, écoute, ça reste une machine extrêmement séduisante, mais effectivement, c'est limité par les ports Thunderbolt. Il n'y a évidemment plus de carte SD. Il n'y a évidemment pas de lecteur CD non plus. Donc, faut voir si notre budget permet d'acheter tous les périphériques qui vont être nécessaires aussi. Là.
Intéressant. J'ai hâte de voir personnellement les nouvelles surfaces, voir si vraiment on a... Il paraît-il qu'on est plus rapide. C'est toujours 33 % de quelque chose, là. 33 % plus puissant.
Ouais, ben, oui, c'est ça.
Tout le temps. Est-ce que tu as remarqué, quand tu l'as manipulé, un changement de puissance? Est-ce que ça boot plus rapidement?
C'est dans le cas des Surface Book, c'est dur à juger parce qu'évidemment, les applications sont toujours pas les mêmes. Tu sais, ouvrir une application Office, ça prend pas une éternité, peu importe la machine. Puis il n'y avait pas de logiciel installé très lourd. Puis de toute façon, les démonstrations, c'est les applications de composition musicale, des choses comme ça. Mais chez Microsoft, l'insistance, c'est effectivement le gros ordinateur. Là. Et puis, voilà, lui, c'est un écran de 28 pouces, beaucoup, beaucoup de pixels, plus qu'un écran 4K. Puis quand même, c'est fluide. Là. Fait que c'est assez étonnant la capacité de traitement d'informations de ces machines.
13,5 millions, je pense qu'il parlait de pixels, une affaire de fou. Là. C'est malin.
Ah oui, c'est vraiment imposant.
Donc, d'autre part, Alain McKenna est également un gars qui fait des livres. C'est pas ton premier. Tu es rendu à combien? Tu as eu tes livres de bière. Tu fais des livres sur la techno. Tu viens d'en sortir un nouveau également qui s'appelle comment?
Mon téléphone me coûte vraiment trop cher. Écoute, c'est mon cinquième livre. Si on calcule les livres de bière, tout le kit, là, on me fait évacuer la navette.
Bon.
Alors, je m'excuse, je vais devoir me déplacer. Mais c'est vraiment dangereux. Un peu, ce livre qui est sorti il y a deux semaines, c'est vraiment le phénomène américain du cord cutting qu'on réplique au Québec. Là, une façon de sauver des gros sous avec son téléphone, l'Internet, la télé, toutes les choses qu'on utilise à la maison qui coûtent extrêmement cher au Canada.
Donc, un livre qui, quand même, ça a pris un bout de temps à écrire ça. T'as pris tes ressources un peu partout, t'as essayé un paquet de trucs. Et donc, si je veux sauver de l'argent, c'est ce livre-là que ça me prend, c'est ça?
Oui, bien, c'est un bon point de départ. J'ai fait le calcul. En fait, j'ai appliqué ce que j'ai fait chez moi et puis je l'ai mis dans un livre. Essentiellement, ce que ça m'a permis de faire chez moi, ça a permis de sauver 2 000 $ par année en remplaçant la télé câblée, en remplaçant la téléphonie résidentielle, par des applications, par des services web qui font exactement la même chose, mais qui, évidemment, sont beaucoup moins chers et sont souvent aussi à la carte. C'est-à-dire qu'on prend seulement ce qu'on a besoin, on n'a pas le forfait de 300 chaînes pour finalement n'en regarder que 2 ou 3 ou 4.
Il y a de plus en plus de gens qui font ça, ce que tu fais. Donc ça peut être un outil pour nous orienter vers des programmes, des trucs peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Donc si je veux le procurer, j'imagine que c'est en version numérique.
Il y a les deux. Il y a l'imprimé dans toutes les bonnes librairies et il y a le numérique. Ça se trouve, l'éditeur s'appelle Guy Saint-Jean, donc saintjeanediteur.com. Vous allez voir, et il se trouve en numérique, effectivement. Écoute, on parle de couper le cordon puis de vivre dans la vie numérique. Donc, peut-être que la version numérique du livre n'est pas une mauvaise idée non plus.
Tu nous fais rêver que tes palmiers en arrière de toi, là.
Oui, c'est vrai. On dirait qu'on est dans le sud, mais pourtant, je suis à peu près au même niveau.
Fais le tour. Montre-nous ça un peu avant que tu partes.
Écoutez, je peux vous montrer. Je suis à San Jose.
OK.
Vous allez voir par là.
Ouais.
J'étais à Cupertino tantôt, mais là, avec la navette, je vous demande de se déplacer. Parce que vous voyez, là, c'est le vieux San Jose, donc vraiment la vieille partie de la ville. Là, effectivement, je ne l'avais pas vu, mais il y a effectivement un beau palmier. Il ne fait pas très beau, là. Il fait 15 degrés, mais il fait gris. Il n'y a plus toute la journée.
Je suis triste.
C'est mieux que la neige.
Je suis triste pour toi. Ici, il pleut comme le maudit.
Merci.
Alain McKenna, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Puis passe un bon séjour. Puis tu viens te mettre tes fesses ici, prendre une petite simple malte quand tu veux.
Écoute, tu viens dire simplement, c'est sûr, j'arrive en courant, il n'y a pas de trouble.
Ça marche, bon voyage.
Salut, bye bye, à la prochaine.
Salut, bye. C'était Alain McKenna, mesdames, messieurs, en direct de son téléphone cellulaire qui ne coûte pas cher parce qu'il y a des deals, puis il sait comment opérer tout ça grâce à son livre. Merci Alain, bonne soirée. Ben, oh, viens de couper ça, on le trou. Fini. Aïe, aïe, aïe. Non, ça a été cool de jaser avec lui, avec une connexion quand même qui n'était pas si mal, considérant que le gars est au bout du monde. Très, très cool. C'est le fun de faire ça. D'autre part, attends, où est-ce que je m'en vais avec tout ça ici? On va essayer de trouver quelque chose que je voulais vous présenter. C'est là, bang. Vous savez qu'on est allé faire un tour du côté du Comic-Con de Montréal. J'avais l'intention de vous diffuser cette conférence qu'on a faite. En fait, c'était plus une entrevue avec Cliff Capral, un des big boss du Comic-Con de Montréal et de Québec et d'Ottawa, qui donc s'est assis avec... il y avait Myriam Tremblay, il y avait Benoît Mercier et moi-même, et on a discuté à bâton rompu, justement, de différents aspects de Radio Talbot, puis des autres boys et des girls qui étaient là également, de leur carrière. Et Cliff Caporali avait d'excellentes questions. Donc, on regarde ça ensemble. C'est le résumé de la conférence. Le son a été refait par notre ami Nicolas chez PQM. Merci beaucoup, nous a sauvé la vie. Merci également à Jen qui nous a fait parvenir la piste sonore qui était, beaucoup plus audible que celle qu'on vous a présentée live. Mais c'est ça, les joies du live. Alors, on regarde ça ensemble, tout le monde. Bon visionnement. C'est le Comic-Con avec Talbot et sa gang.
Bonjour Comic-Con! Ça va bien? Mon nom, c'est Cliff Caporal, je suis directeur de la programmation et je suis très content de vous voir en grand nombre ici au Comic-Con de Québec. On est excités? Vous allez être plus excités quand Denis vient sur le stage? C'est ça que j'aime entendre. Alors, on a un show spécial pour vous aujourd'hui. C'est Radio Talbot Live avec des collaborateurs comme on a avec Radio Talbot présentement et M. Net. Et j'aimerais faire venir sur la scène une couple de personnes avant de venir faire venir Denis. Et premièrement, on a Benoît Mercier, que vous connaissez des Mystérieux Étonnants, de M. Net et aussi de Radio Talbot. Alors, bienvenue Benoît. Benoît, est-ce que tu te... Benoît! Benoît, est-ce que tu te rappelles une des premières émissions que moi j'avais été à M. Net, tu étais là?
Oui.
Puis que je t'avais appelé quelque Bob ou...
Je pense que tu m'avais appelé Robert.
Robert, ça, OK, ouais. C'est ça. Ça, c'est le fun.
On se connaît bien maintenant, c'est correct.
Mais là, je vais te dire, j'hésitais.
T'as-tu hésité pour
faire venir? C'est quoi son nom? Non.
Ça fait juste comme 4 ans qu'on se connaît. Hein?
Alors, merci. Alors, la prochaine personne que j'aimerais faire venir sur la scène, vous la connaissez aussi de M. Net et aussi de Radio Talbot. Alors, Myriam Larouche.
Myriam.
Alors, le prochain monsieur, j'aimerais que vous vous levez et vous vous donnez une grande main d'applaudissement à monsieur Denis Talbot! Yeah!
Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Ça sent le Epic Joystick. Ça... Ben Choslai, bonsoir. Ah, il est là, là. Salut. Salut, la gang. Salut, tout le monde. Content de vous retrouver. Hey, Cliff.
Ça va?
How are you, sir?
Hey, I'm good. How are you?
Good, thank you.
Alors, une couple de choses pour dire avant, que vous pouvez prendre des photos. Évitez le flash, s'il vous plaît. Et je parle pas juste de flash de la télévision, des bandes dessinées, mais évitez le flash. Vous pouvez filmer, mettez ça sur Facebook, sur YouTube.
Partagez. Ouais. Vous pouvez nous flasher si vous voulez, mais on voit rien.
C'est déjà fait, parfait. Ah, je vois déjà des flashs. Ah. Alors, pour commencer, je vais juste dire que je vais venir faire un tour pour prendre le temps que vous demandez des questions. Je vais demander une couple de questions à vous autres. Comme vous faites ça fait un petit bout.
Ouais.
OK. On parle de jeux vidéo, ça fait des années. Mais vous êtes presque les seuls qui parlent de jeux vidéo dans les milieux que vous allez, que ce soit M. Net, que ce soit Radio Talbot, Mystérieux Tenant. Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus dans les médias?
Et il va me partir, lui-là.
Start.
Tough questions first.
Écoute, c'est difficile à comprendre. Quand ils m'ont mis dehors, j'ai eu cette réflexion-là pendant 2-3 semaines. Je me suis dit, pourquoi? Le show qui roule bien, les gens sont au rendez-vous, les gens sont là. C'est-tu quoi? Je pense que les dirigeants de télé... malheureusement, ont de la méconnaissance par rapport aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de préjugés encore qui, malheureusement, gravitent autour de ça. On s'imagine que c'est juste des enfants qui jouent à ça. Puis, regarde dans la salle, ici, c'est tous des gamers. Puis, il n'y en a pas qui ont 10-12 ans. Alors, c'est des gens qui jouent, c'est des consommateurs qui achètent des jeux, c'est des gens qui vont aller vers les nouvelles technologies, c'est des gens qui sont sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Tu dis tous ces mots-là aux dirigeants de stations de télé, ils font... Hein? C'est quoi? Snap? Ils savent pas du tout c'est quoi. Donc, quand tu essaies de leur vendre l'idée que les jeux vidéo, c'est important, puis que c'est une industrie qui génère des milliards par année, là, ils allument. Mais ils comprennent pas que pour faire partie de cette industrie-là, ben il faut peut-être contribuer en permettant à cette industrie de se faire voir sur les grands réseaux. Mais c'est pas grave, parce que la télé telle qu'on la connaît est en train de perdre un peu de vitesse. Parce que l'Internet, ça a du bon côté, mais pour les artisans de la télé, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont assis entre deux chaises et ont peur de perdre leur job. Mais si on ne s'adapte pas, on meurt. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Puis c'est pas en prenant ce qu'on faisait à la télé habituellement depuis 25-30 ans qu'on est habitué de faire le même modèle d'affaires puis qu'on fait la même chose sur Internet que ça va nécessairement prendre, ça va pogner. C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut s'adapter au médium.
puis répondre à la demande qui est là. Parce que ces gens-là, c'est des gamers, c'est des gens qui veulent partager leur passion geek. Tu le sais, tu fais des Comic-Con depuis des années maintenant, et c'est toujours plein. Et c'est une chance qu'il y ait un Comic-Con comme ça pour continuer justement à faire la propagande, mais la propagation, justement, du jeu vidéo puis du monde geek. Et dans ton podcast, tu le vois toi aussi.
Ben moi, je pense que c'est ça, la dissociation est pas juste au niveau des jeux vidéo. Là. C'est la sphère geek au grand complet. Que, je veux dire, ça fait des années qu'on fait ça. Puis, ultimement, quand les gens qui nous connaissent, les gens qui nous écoutent nous connaissent, mais les producteurs, les gens qui sont dans des positions pour prendre des décisions, ils sont complètement dissociés. Puis je pense que de toute manière, s'il serait pour adapter un show geek ou refaire un Monsieur Net, moi je pense qu'ils peuvent pas refaire un Monsieur Net, c'est impossible. Ils vont le diluer, ils vont mettre des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, que c'est des belles personnes, mais qui connaissent pas le sujet. Et ça, je pense que les geeks le sentent dans ce temps-là quand c'est pas authentique.
Nous autres, on n'est pas beau, mais on connaît ça.
C'est pas ça que j'ai dit.
Ça fait que, non, mais sérieusement, c'est une chose d'engager quelqu'un pour apprendre des textes ou lire un télésouffleur. Là, ce jeu était vraiment fantastique. Il a été créé en 1900. Puis quelqu'un qui va me dire, « Hey, ça, c'est le meilleur jeu. » Puis il te donne une bine sur une épaule. Lui, tu sais qu'il a joué. L'autre, dans Far Out, on recommence. Ah, oh, Far Out. Fall Out. Ah, OK, oui.
Puis je vais me permettre d'y aller aussi pour une question sociétale. T'sais, les médias, depuis un certain temps, on est chanceux, les geeks, on a une meilleure visibilité. Il y a de plus en plus de shows, justement, grâce à Denis. On démystifie beaucoup le jeu, le cosplay. C'est de plus en plus mis en lumière. Mais en même temps, on ne cachera pas le fait que les vrais de vrais geeks, quand on va à l'école, par exemple, le jeu, le cosplay, la robotisation, la technologie, c'est pas mis de l'avant. Et t'sais, on parle beaucoup de ce temps-ci aussi d'intimidation à la télé. Et bien, les jeunes dans les écoles, vivent souvent beaucoup aussi de l'intimidation quand c'est vraiment des vrais gamers, des vrais geeks, on ne se le cachera pas. Donc, les médias reflètent aussi ce qui est sociétal. Donc, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, même dans le programme éducatif, c'est difficile après ça d'arriver avec des séries télé qui vont mettre l'emphase justement sur le jeu ou encore sur le cosplay. Donc, tantôt, c'est vrai que ça joue un peu, tu sais.
Tantôt, je parlais à Mme Bourbonnet qui fait du cosplay depuis toutes ces années-là, puis elle m'a parlé de ses embûches. Depuis le début qu'elle fait ça et les préjugés que les gens ont. Je regardais juste, avant de venir hier, je regardais la couverture que tu as eue ici à Québec dans un certain réseau de télévision et c'était marqué « Les cosplayers débarquent! » Et là, tu vois une madame qui, malheureusement, n'a pas le plus beau des costumes. Ça sentait le préjugé à plein nez.
Ah, ça arrive tout le temps. C'est constamment.
Et ça, je trouve ça décevant. Combien qu'il y en a ici qui ont mis des heures et des heures à concevoir leur costume, des mois, en fait, puis pour se présenter ici, puis justement montrer leur truc. Et ça me pue au nez, mais ça fait partie de, justement, peut-être de la vieille garde qui est en haut, qui connaît moins ça et qui trouve que les gens qui font ça sont des nonos ou des attardés qui vivent dans le sous-sol de leurs parents. Moi, je suis encore dans le sous-sol, mais pas de mes parents.
Puis, c'est ton sous-sol.
C'est mon sous-sol. Puis j'ai du fun dans mon sous-sol, puis j'espère que vous en avez aussi, tu sais.
Mais si tu me permets de rajouter un petit truc, puis je trouve que c'est important parce que j'en avais parlé à Denis, puis j'en ai parlé à Ben, puis Frank qui faisait Monsieur Net avec nous dans le temps. Mais Denis, je pense qu'il s'est battu beaucoup, puis fort pour que le show Monsieur Net reste authentique puis proche des valeurs de justement de son public. Parce que sinon, ça aurait été juste des gens qui sont derrière, que moi, j'ai jamais rencontré ces gens-là, mais que j'entendrai parler dans toutes les branches, ça serait devenu autre chose. Fait que le show que vous avez vu toutes ces années-là, le fun que vous avez vu à la télévision, il était authentique, il était entretenu. Puis ça, c'est grâce aux gens qui participent, mais c'est aussi grâce à Denis qui a été finalement le chien de garde de ces changements.
Ça m'a valu des prises de bec incroyables. T'sais, je me suis fait... moi, à un moment donné, je pensais me faire sacrer dehors, je te jure.
Ça va jamais arriver. Attends.
Non, c'est déjà arrivé. Puis, tu sais, quand tu... Ça, ceux qui écoutent Radio Talbot le savent peut-être. À un moment donné, je m'étais fait apostropher par une patronne qui m'attendait avec une brique. Enfin, elle était contente. Elle m'avait pogné dans quelque chose. Enfin, elle pouvait me rentrer dedans. T'sais. Elle fait venir au bureau, puis l'état-major est tout réuni, puis ils m'attendent, les petits bras croisés, puis il y a une cassette, là, tu sais, qui est en stand-by, là, dans le VCR, là, puis tu vois la ligne noire, puis elle est juste prête à partir, là, c'est ma face qui est de même. Tu sais, là, qu'est-ce qu'ils ont vu, là? Fait que, c'est pas professionnel, c'est absolument pas professionnel ce que tu as fait. J'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Une image vaut mille mots, pèse sur le piton. Alors, voilà, ma gang de geeks, gang de malades, nanana. Putain! Ouais, que je comprends pas. « On ne rit pas des gays! » J'ai dit « geek ». Tu vois, un geek. Là, mon boss, il avait ses lunettes comme ça. J'ai le vois encore faire ça. Il dit... Alors, j'ai quitté le bureau et j'aurais aimé ça être là après pour savoir ce qui s'est dit. Mais tu vois, ce genre de préjugés-là, c'est des expressions. Il y a des parents qui m'écrivent pour savoir c'est quoi des raves. C'est quoi la différence entre un rave et un land party? Tu sais, quand tu dis, maman, j'aimerais ça aller au land party. Du VIX puis de l'ecstasy. Puis des messieurs en chien chandail qui vont danser toute la nuit. Non, madame, c'est pas ça. Mais ça c'est encore des trucs qu'on doit démystifier puis faire comprendre aux gens que c'est pas, les jeux vidéo sont pas nécessairement le démon, tu sais.
Puis justement, quand on parle de démystification, tu sais, Denis, justement, il a voulu aussi beaucoup apporter, puis ça, on va falloir qu'on le mette en lumière également, le fait aussi les places des femmes dans le jeu, les femmes dans l'industrie. Denis a toujours vraiment poussé dans les émissions, même si souvent les femmes sont peut-être moins bien vues dans le côté plus opinion, plus critique.
Même ça, ça a été dur parce que... Mais c'était des patronnes que j'avais. Puis là, elle me dit, t'engages pas une fille. Oui, à l'air d'une grosse lesbienne, avec des tatous, à l'air des gros seins, puis voyons, une chose est bien plus cute, elle. Oui, mais elle connaît rien d'un jeu. Tu sais, il a fallu que je me batte pour faire valoir mon point, que, écoute, c'est pas juste des gars qui jouent à des jeux vidéo. Il y a des filles, puis il y a des filles qui en font des jeux vidéo. Puis, à un moment donné, ils s'en sacraient. J'ai tellement chialé, je faisais ce que je voulais, là. J'engageais qui je voulais. Puis, je suis content de l'avoir fait, parce que j'ai découvert des Catherine Matisse, des Myriam, écoute, Andréanne Babin, et je veux pas en oublier, là, mais des
Stéphanie filles. Hervé.
Pardon?
Stéphanie Hervé. Stéphanie Hervé, tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est cool d'avoir eu cette plateforme-là. Ça a été une belle époque. Est-ce que je suis nostalgique? Non. On est ailleurs, mais c'est sûr que si demain on m'offrait un show, il faudrait que j'aie carte blanche en Simonac. Puis ça, je ne l'aurai plus jamais. Parce que, hey, fais-moi la critique de, je sais pas moi, Fallout 4, tu as 3 minutes. Calvaire, 3 minutes, fais la critique de Fallout. OK, c'est un jeu qui est bon, qui est ça de pas bon, ça de pas bon, c'est fini, commerciaux, tu sais.
Non, je te comprends. Moi, je me fais demander souvent avant un Comic-Con, peux-tu m'expliquer c'est quoi un Comic-Con dans une phrase? Non. Jamais. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer à vos amis c'est quoi un Comic-Con dans un.
Moi, je serais capable.
Toi, tu serais capable?
Au moins une minute et demie. Mais comme hier, je suis allé faire une entrevue dans une station de radio et l'animatrice, tu sens tout de suite l'espèce de dérision. Hey, là, des gens qui s'habillent, toutes sortes de trucs. Oui. Puis c'est des gens qui font le tour du monde. C'est des gens qui gagnent leur vie en faisant ça. Tu vas au Japon, puis tu vois Mme Bourbonnais sur des posters, toute la kit. Tu vas à Los Angeles, elle est encore là. Elle se promène partout. Il y en a un paquet. Il y a Anne, puis toute cette gang-là qui gagne leur vie. Ils font ça pour gagner leur vie. Ouais. Ah bon. Mais tu vois, ça sent toujours cette espèce de condescendance un petit peu. Puis ça me pionnait.
Puis dans quelle direction qu'on s'en va maintenant? Maintenant, on est balado-diffuseur.
Podcasteurs, blogueurs.
Et on est sur Twitch, on est sur Facebook récemment, tu as lancé.
On est sur Facebook en ce moment, là. Juste là, il y a une caméra qui filme. Vous êtes sur Facebook, peuple? Oui! Voilà. Juste là, là. Merci. Non, c'est vrai, on est en direct parce qu'avec les caméras aujourd'hui, comme chez nous, là, avoir ce que j'ai comme équipement, dans le temps, ça m'a coûté 200 000 avoir 7 caméras, plus l'équipe pour gérer tout ça. Aujourd'hui, ceux qui font des podcasts, ça s'amuse très bien, ça s'en sort très bien avec une cam, un bon micro, 2 cams, une petite console ou encore un OBS, puis ils s'amusent, puis ils ont du fun, ça fait d'excellents shows. Puis il y en a des maudits bons podcasts. Puis si ça vous tente d'en faire des podcasts, faites-en des podcasts. Puis s'il y a quelqu'un qui est à la même heure que vous, c'est pas grave, faites-le pareil. On a chacun nos intérêts, chacun nos goûts, puis à un moment donné, c'est petit à petit que tu te bâtis un auditoire. Puis où ça s'en va, bien, je pense que c'est ça. Ça va être du contenu sur demande, encore une fois.
Du contenu sur demande, ça va être des shows qui sont spécialisés, ça va être des shows encore... Moi, j'aime bien le mot authentique, là, parce que moi, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'écouter la radio ou la télé, puis tu as du vrai faux bonheur qui te pousse à rafale.
C'est le monde qui ne s'aime pas, stagé,
il ne s'aime pas.
12 degrés à Montréal, salut Sophie, OK, pause.
Il n'y a rien que j'aime plus qu'écouter un podcast, puis j'ai l'impression que même si c'est un petit peu broquette, que c'est des gens qui s'aiment pour vrai, puis qui ont vraiment du fun ensemble. Fait que j'ai l'impression que ce côté-là, il est développé au côté anglophone américain.
Ouais.
Je pense que ça commence, le podcast, on dit ça, mais ça fait 10 ans qu'on fait ça, du podcast.
Ça fait longtemps que
le monde commence à comprendre que ça existe. Puis je pense qu'il va juste en avoir plus. Puis éventuellement, je pense que ben, Denis le fait. Moi, j'ai ambition de vouloir le faire, mais de vivre ou de générer un revenu avec ça. Moi, je pense que c'est possible. Ça me fait rire quand les gens disent, ben, ah, c'est trop petit le Québec, on ne peut pas vivre du podcast. Avec la même logique, il n'y aurait pas eu de radio, il n'y aurait pas eu de télé, il n'y aurait eu rien. Puis les paradigmes changent. En ce moment, la télé, elle se... ils vont plus chercher des trucs chocs parce qu'ils savent que ça va attirer un certain public, mais même eux autres, ils vont se tanner.
Puis on se le cachera pas, de toute façon, tu sais, vu que c'est sur Internet, avec les podcasts, on a la France aussi, tout ce qui est francophone, on n'est pas juste arrêté au Québec. On a sur Radio Talbot tellement des Français qui nous suivent, qui nous écoutent des fois en différé par la suite quand ils vont chercher le podcast. Donc, c'est beaucoup plus large que juste le créneau qu'on avait dans notre petite plage télévisuelle qui était toujours à la même heure, même poste. Tandis que là, c'est beaucoup plus facile d'aller rejoindre une communauté beaucoup plus large.
Puis, il n'y a pas de contrainte de temps. C'est ça qui est le fun. Moi, je me fais un thé au micro-ondes. Là. Je peux te dire que 3 minutes 24, quand est-ce que mon thé est prêt? Parce qu'on est tellement habitué, on était formaté. Là, tu arrives sur Internet, puis si tu s'attends de parler d'un jeu une heure, tu peux faire ça seulement. Tu n'es pas obligé d'avoir, d'arrêter tout le temps. Oui, il y a du placement de produits, c'est avec ça qu'on vit. Oui, il y a des gens qui s'inscrivent, il y a des gens qui font des dons. C'est comme ça, ça c'est ce qui m'a permis d'acheter de l'équipement puis de continuer, puis de payer ces gens-là aussi. C'est sûr qu'ils ne faisaient pas des fortunes, mais au moins quand tu te déplaces, bien, c'est un léger supplément pour payer l'essence, tout ça. Mais oui, on peut en vivre, puis moi, c'est mon but ultime, éventuellement, de continuer de faire ça chez nous, puis de m'amuser. Puis c'est le fun en tabarnouche quand tu descends avec ton petit café le matin, tu dis « Oh! Il y a la circulation, il y a un Toy Story dans l'escalier. Je le tasse un peu, je vais arriver 30 secondes en retard au bureau. » Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Travailler en mou, là, oh man. Souvent, j'anime, j'ai pas de culotte.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vraiment vrai. Puis il y a des taches, c'est short.
Pourquoi tu m'as mis cette image-là dans la tête?
Il va commando.
Mais la méthode d'achat a changé. On ne va plus vraiment magasiner. On achète tout en online, on achète tout en ligne, sur Internet. Mais la télé, ça va être la même chose. Ça laisse de plus en plus de côté la télévision. Les jeunes, je suis persuadée, là, j'ai plein d'étudiants en résidence de l'ETS qui n'ont même plus la télévision chez eux. Ils n'ont plus ça. Le monde n'a plus ça. Tu n'achètes plus pour 200$ pour pouvoir avoir un réseau télé chez toi quand tu peux tout avoir ce que tu aimes directement sur ton 17 pouces chez toi, sur ton portable ou sur ta grand écran large 32 pouces que tu as acheté pour jouer. Là.
Moi, j'ai un 60 pouces TV Samsung. J'ai acheté ça avec bonheur. Puis là, ben, le soir, j'écoute Netflix, mon téléphone couché dans mon lit. Ma blonde a dit, « Pourquoi t'as acheté ça? »
Je peux l'écouter dans le lit.
Et belle.
Là, on parlait du futur. J'aimerais parler du passé. On est tous geeks ici. Moi,
geek.
Geekette. Des geekettes dans la place. Il y en a, il y en a quelques-uns, je vois des mains.
Moi, j'ai commencé avec de la bande dessinée, avec des comics, X-Men et les dessins animés à la télé, bien sûr. J'aimerais savoir le portail de où vous avez rentré dans ce monde-là. C'est quoi qui vous a fait rentrer?
Ton gateway commencer... geek.
The gateway, ouais. Alors, on va commencer avec Myriam.
Moi, personnellement, je pense que ça a juste commencé avec mon frère. Pour vrai, j'ai tellement regardé mon frère jouer quand j'étais jeune. J'allais me coucher le soir, puis ma mère me permettait de regarder mon frère jouer pour m'endormir. Donc, je pense que c'est vraiment là que ça a commencé. J'ai réussi à passer Mortal Kombat avant mon frère, ce qui a été probablement le plus grand succès que j'avais eu à l'époque, quand j'avais quoi, peut-être 5 ans, 6 ans, quand je jouais à Mortal Kombat à ce moment-là.
Avec des bons parents.
Après ça, ça a juste comme continué. T'sais, c'est sûr, j'ai eu l'exemple de mon frère qui me précédait. Mais moi, c'est vraiment avec le jeu là, de pouvoir regarder mon grand frère jouer. Et après ça, les Tintins, toutes les BD que j'ai eu la chance d'avoir. Lucky Luke, moi, je faisais partie vraiment de la gamme Lucky Luke. J'écoutais les tunes de Lucky Luke. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Puis après ça, c'est sûr que je suis rentrée dans le bon moment de la techno. À Chicoutimi, j'étais dans les premières à avoir eu de l'Internet chez nous. Donc, j'étais quand même vraiment là, cool à l'époque de pouvoir dire à tout le monde, vous m'appelez pas entre 7h puis 8h. Parce que je suis sur Internet. Donc, je pense qu'après ça, vu que j'étais comme vraiment dans les précurseurs, ça m'a collé à la peau. Puis, j'ai toujours été dans les domaines de gars à l'école, autant en sciences que dans les domaines de... Justement, on a fait, nous, à l'école, on avait un petit volet qui nous permet de faire un petit peu des réseaux routiers au secondaire. On appelait ça un petit peu la domotique à l'époque, là, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Mais j'ai embarqué là-dedans avec le Club Sciences. Puis, après ça, c'est juste l'école qui m'a permis de pouvoir me développer. Ensuite, le génie à l'ETS pour pouvoir me rendre, justement, jusqu'à Denis et toucher vraiment à la techno de toutes les couleurs.
Parlant
de
génie.
Parlant de génie. J'ai frotté un peu mon génie, là, puis je suis arrivé à la bonne place au bon moment.
Hey boy. Okay.
Pas sûr là, de ça, là. Attends un peu.
Moi, c'est un de mes premiers souvenirs, c'est associé à ma fascination pour la BD. Dans le temps, il y avait des figurines de DC Comics qui vendaient un petit comic à l'arrière. Tu pouvais, comme t'arrachais le tu pognais ta BD, pas ta BD, mais ta figurine de Batman ou de Green Lantern ou whatever, puis t'avais une petite BD. Et je sais que j'étais fasciné par la forme de la BD. C'est comme une version petite des single issues, là. Et mon père, je voulais qu'il me lise ça. C'était en français, en anglais, mais tu sais, je lisais même pas, j'étais très jeune. Puis je me souviens qu'il paraphrasait ce qui était écrit, je m'en rendais compte. Puis je me disais, à un moment donné, je veux savoir ce qu'il dit là-dedans. Puis plus tard, j'ai commencé à développer une obsession pour les BD. Puis j'ai voulu à un moment donné en parler. Justement, il n'y avait pas de tribune côté BD. Je trouvais qu'à chaque fois qu'on parlait d'un Comic-Con, c'était de façon condescendante, ça. On a lancé un podcast, ça a grossi. Puis éventuellement, ben c'est ça, ça de fil en aiguille, rencontrer Denis, rencontrer Yann.
Parce que moi, je t'écoutais.
Oui.
Parce que moi, j'ai toujours aimé les bandes dessinées. Mais plus les personnages plus connus. Il y a toute une couche de super-héros que tu me fais découvrir, puis j'adore ça quand tu viens au podcast, parce que tu me fais connaître des aspects de certains de ces personnages-là que je ne savais pas. Luke Cage, c'était pas un personnage...
C'est pas un personnage que les gens connaissaient avant que la série sorte, vraiment.
Tu sais, un paquet de personnages comme ça, Jessica Jones, qu'on a après ça, bon, est arrivée la série.
Là, t'es tombé ça. Fall in love avec elle.
Ah oui.
On l'appelait son répondeur.
Je trouve pas que tu le dises, ça. On l'a ou on l'a pas. Mais je l'ai pas. Mais
la première fois que je suis venu au show, c'était pour parler du reboot de DC Comics.
Oui, ouais. Ça, c'était bien cool. Puis là, j'ai ce gars-là, waouh, il est aussi bon à radio qu'à la TV. Il est juste plus beau à radio. Mais ça fitait dans ma gang de lettres. Fait qu'on l'a engagé. Non, sérieusement, j'ai toujours adoré faire ça avec toi. Puis j'espère que ça va durer longtemps parce que c'est le fun. Moi, je suis comme un mystérieux étonnant frustré.
C'est ça. T'es le grouch, t'es comme la marionnette d'un Sesame Street qui sort.
Mais c'est le fun parce que c'est ça, lui, il m'a fait découvrir ça. Mais les jeux, moi, c'est drôle parce qu'il y a un gros mouvement de rétro gaming en ce moment. Nous autres, on a joué à ces jeux-là. C'est drôle. T'es aussi jeune que moi.
Ouais.
Mais c'est le fun de voir ça. Puis c'est le fun de voir le mouvement indépendant qui reprend les jeux, les mêmes bases que les jeux qui sont sortis dans notre temps, puis rajouter des éléments qui en font un autre titre carrément. Puis c'est là que c'est ça mon plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de retrouver des trucs auxquels on a joué, mais aussi de laisser emporter dans des univers. Moi, si je décroche de mon univers présent puis j'embarque dans un jeu, bravo, tu m'as eu. Le VR, c'est la réalité virtuelle, c'est fantastique.
T'as l'air fou, par exemple, quand tu joues, là?
Oui, t'as l'air fou quand tu joues.
Il y en avait-tu qui étaient avec nous autres mardi à Radio Talbot?
Elle a tellement eu peur.
J'ai tellement eu peur, là. Ça n'avait pas de bon sens pendant le playtest.
Elle m'en est en train de jouer. C'est un jeu d'horreur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle est en train de jouer. Puis Nicolas Landry, qui était assis là, les gens sur Twitch me disent, va y mettre la main sur l'épaule, dans le dos. Fait que je dis, fais signe, il est là. Non, je dis, ah ouais. Fait que lui s'approche doucement, puis attend que les bébites sortent. Puis quand la bébite sort, il met la main sur l'épaule. C'est le premier tabarnak que j'ai entendu à Radio Talbot. Mais il était senti et vécu, je peux te le dire. Mais c'était, écoute, c'est le genre de niaiserie que j'aurais pas pu faire à la TV, tu comprends?
Yann, avec ses bâtons, je lui dis.
Non, écoute, c'était Yann Richards qui aurait aimé ça être ici ce soir, mais ça coûtait trop cher. il aurait aimé ça être ici, mais il pouvait pas. Mais sérieusement, c'est un autre fou, ça. C'est un autre gars qui connaît. Écoute, lui, là, tu vas y parler d'un jeu qui est sorti, mettons, le deuxième Far Cry. Ah oui, le troisième méchant s'appelait Kevin Smith, ou je sais pas, Johnny quelque chose. Puis lui, il était marié dans le jeu, sa femme, elle s'est fait tuer. Puis là, on l'a retrouvé dans le deuxième. Il connaît ça par cœur, puis il s'en souvient. Comme
il sait trouver comment les DLC gratuits aussi, c'est ça?
Oui. D'ailleurs, il a tout remis mes jeux. Je tiens à dire merci à Yann, qui... là, je suis content avec l'avènement du numérique, il ne peut plus m'en emprunter. Mais je suis bien curieux. Non, mais c'est ça, c'est cette passion-là, je pense que c'est la curiosité. Tu peux pas aimer juste les jeux vidéo. Il faut que tu aimes les bandes dessinées, il faut que tu aimes le cinéma, il faut que tu aimes les déclinaisons, il faut que tu aimes venir à des conventions comme celle-là pour voir la passion qui se propage. Moi, c'est ça qui me fait triper. Puis j'espère que ça va me faire triper longtemps parce que il y a des jeunes vieux que j'appelle qui sont plus jeunes que moi, puis ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette scène-là. Puis je comprends pas que ça t'intéresse pas parce que c'est le futur.
Parce que ça va vite aussi être déphasé. Il faut vraiment que tu sois à l'affût. Denis est avec une équipe jeune. Il se maintient au courant. Il essaye des Rocket Blade dans son sous-sol. Il est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Donc, il est vraiment up-to-date.
C'est quoi des Rocket Blade?
Hey, j'avais amené l'année passée. Je peux-tu?
Ah, ta gueule!
Mais t'es quand même essayé. Même moi, j'avais la chienne des essayer puis t'es essayé. T'sais. C'est des rollers qui vont tout seuls. Tu sais, des Roller Blade.
Qu'est-ce que je vais faire?
Explique une affaire. Attends un petit peu. Je vais t'expliquer. C'est un patin. Il y a des roues mécanisées après. T'en as deux parce que t'as deux pieds. Fait qu'elle dit, je veux pas essayer ça, c'est pas faisable. Voyons donc, j'ai fait les aventures du Grand Talbot, moi, t'as essayé ça, moi. Maman, un, OK, là, j'essaie de me lever.
Là, j'ai dit, prends-toi après la chaise, Denis, là. Tiens-toi après la chaise.
Voyons donc, regarde, c'est pas à qui tu parles, j'ai sauté en parachute à 18, toute la kit. Les roues, ça, mais le deuxième, wouh! Mais quand tu vois tes pieds qui dépassent ta tête, ça vient comme au ralenti.
Ouais. Ta vie change.
Là, ta tête a dit, ça va faire mal. Mets tes mains. Non, mais tes mains tiennent la chaise. Et la chaise a aussi les pattes en l'air. Et là, tu te ramasses sur le dos, ça bang! Es-tu correct? Ben oui.
Il s'est relevé d'un trait comme si de rien n'était.
C'est très correct. Excuse-moi, m'aller aux toilettes. Oh! J'avais perdu le souffle, là, c'était l'enfer. Mais ça donnait un bon show pour ceux qui l'ont vu.
Moi, je l'ai vu.
Puis que j'avais oublié, moi, ça, cet épisode-là de ma vie.
C'est tout filmé ou...
Non, j'ai regardé ça, ça n'a pas été filmé, malheureusement. Mais on aurait dû le filmer, ça aurait fait un mot de bon
bloopers.
Puis j'aurais pu... En tout cas, il y a pas problème d'assurance, je suis sûr.
Je vais faire le tour de la salle. Je vais demander les gens qui veulent me demander une question de... Non. Un petit peu de temps. Elle va me donner le signal. Mais je vais descendre du stage, puis je vais... S'il y a des gens qui ont des questions pour Denis, Myriam ou Benoît...
Dans le temps,
je vous invite.
Dans le temps, Cliff, il sautait, faisait une culbute, puis tombait debout, là, mais là, il fait le tour.
Non, je le fais plus, là.
Il fait le tour, maintenant. Mais je suis content que vous soyez là, tout le monde. Merci beaucoup. C'est très flatteur, c'est très gentil, c'est très apprécié.
Ouais, merci.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles consoles qui sortent avec le Nintendo Switch et les autres consoles qu'il devrait avoir dans les prochaines années?
C'est vraiment de la marbre. Autre question. Non. Non, c'est pas vrai. La NX, maintenant la Switch, on connaît son nom. Moi, je trouve que ça risque d'être pas mal intéressant au niveau du design. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de tester la fragilité de ce truc-là. Il y a bien des éléments qu'on connaît pas. Les rumeurs que c'est du 720p, j'en doute. Moi, je suis probablement que ça va être du 1080 au moins. Est-ce que la pile va durer longtemps? La connectivité va se faire comment? Est-ce que il y a un paquet de trucs qui sont encore... très méconnu. Mais Nintendo joue très, très proche de la veste, comme au poker. Ils ne veulent pas trop qu'on sache qui s'en vient. Mais ça a créé l'effet voulu, ça a fait le tour du monde. Et les rumeurs s'effusent de tout bord.
Et les développeurs ont signé, c'est ça qui est le fun.
Les développeurs, la liste est longue. As-tu vu ça?
Oui, j'ai vu ça, mais en même temps, les jeux que les personnes attendent le plus sur Nintendo Switch et d'autres jeux de console comme Battlefield... One et d'autres jeux comme il va y avoir un nouveau Call of Duty bientôt.
Écoute,
quoi vous attendez le plus là-dedans? Votre note que vous allez penser avoir?
Il y a un petit bonhomme qui s'appelle Link, là, que j'atteins un petit peu. Okay. Ça, je pense qu'il y a bien du monde qui l'attend aussi.
Ouais.
Fait que ça va être probablement un titre de lancement, assurément un titre de lancement. Mais de voir ce qui va aller sur cette console-là, parce que quand même, c'est un Tegra 2 qu'il y a dedans, je ne me trompe pas, comme c'est une machine qui risque d'être assez performante. Mais je pense qu'on a pris les éléments qui manquaient pour la Wii U. On a pris les bons côtés de la Wii U, on les a gardés, il n'y avait pas beaucoup. Mais... Excusez. Et on a quand même raffiné le design, tout ça. Le fait de prendre les manettes, de jouer à deux en se prêtant les manettes, je trouve ça superbe. Écoute, j'ai hâte de l'essayer. C'est difficile d'apporter une critique sur un produit qu'on n'a pas essayé, mais je pense qu'ils ont... Ils ont un bel avenir, surtout avec la liste des gens qui ont développé. Est-ce que c'est des promesses de développement ou c'est des gens qui vont vraiment développer parce qu'ils ont vécu ce que c'est de lancer une console sans jeu? Ça fait mal, puis les consommateurs, ils n'achètent pas, tu sais. Et puis les fabricants en fabriquent pas parce qu'il n'y a pas assez de consoles.
Ça, c'est vrai, le pire, mais... tu sais, moi, je me dis, la plupart des personnes qui regardent les jeux aujourd'hui... Il y en a pas mal qui trouvent que ça trouve trop cher, 89$, d'autres genre une centaine de piastres. Quand que je regarde sur les journaux comme Best Buy ou ouais. C'est rendu comme 100$ le jeu, le monde ne s'attendait pas pantoute à avoir...
Fut une époque, alors que j'étais jeune et naïf, et quand j'ai vu apparaître le numérique là-bas dans le firmament des jeux vidéo, je me suis dit, enfin, nous allons payer nos jeux moins chers. Car il n'y a plus d'emballage, plus de pollution avec les camions qui se promènent à gauche et à droite pour livrer ces trucs. Et ça coûte cher en essence. Plus de support numérique, comme des DVD. On va payer moins cher. C'est beau rêver, hein? Ouais. Il n'y a plus de livre d'instruction, il n'y a plus rien, mais on paye le même prix. Parce que ça coûte cher développer des jeux, vous le savez. C'est vrai.
Bonjour, Denis.
Comment? Ah, ben, regarde, je connais ce voix-là, moi.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
J'ai pas vraiment de questions pour toi.
Ouais,
on t'a fait un petit cadeau.
La part de Big Joystick.
On doit regarder ça. Ça, c'est... Oh, oh, oh! Ça doit être du truc pour allergie de chat, c'est ça? Non?
Non, non, non.
OK. Oh, tiens donc ça. Oh, 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 nice! Ah, des verres Radio Talbot! Ah, c'est très cool! Hey, merci beaucoup, Epic Joystick! C'est très cool!
Hey, c'est hey, fin, Epic Joystick!
Méchant
beau
cadeau,
wow.
Merci beaucoup! Il y en a deux, à part ça. Eh ben, juste ça,
on a-tu apporté de la bière?
Oui, trop tôt, non, il est passé midi. Ils vont venir en prendre deux.
Chance que tu en as deux, Yann va t'emprunter l'autre.
Hey, merci beaucoup. C'est très gentil. D'ailleurs, je vous invite, là, tout le monde, Epic, viens faire un tour à la maison, puis on va faire un show avec vous autres. J'en dois une, mais moi, j'ai pas de chat. Puis avant de venir chez nous, vous changez vos vêtements. Avant de venir chez nous, là, c'est la douche, pas avoir de poils de chat, puis tout. Ah non, je suis allé chez eux, je pensais pas que je mourrais, caletard. J'ai pas vu le chemin en revenant chez nous, ce que je voyais. Hey, deux jours, avoir l'une même. Elle me demande, qu'est-ce que t'as fait? Des chats. Tu sais que t'es allergique. Je savais pas qu'il y en avait, moi. J'ai vu après, j'étais assis en arrière de moi, il y a une patente de poils qui... Mais elles sont fins, tes chats, c'est ça que je voulais te dire. Merci beaucoup de l'invitation, Alex, puis vous allez venir chez nous. D'accord. Merci, vous les verts. On vous applaudit, Epic Joystick, mesdames et messieurs. Vraiment beau.
Nous avons une question de Gabriel de Lévis.
Salut, Denis.
Salut, Gabriel.
Ça va?
Ça va bien, toi-même?
Moi, très bien. Juste comme ça, Call of Duty, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que c'est devenu avec les années depuis Modern Warfare 2 ou 1 encore, avec qu'est-ce qu'on est rendu à Infinite Warfare, puis tout qu'est-ce qui est futuriste?
Moi, j'aime moins ça, le futuriste. Je suis tout seul.
Non.
Il me semble que...
Moi, je n'achèterai plus jamais aucune puce d'ici jusqu'à temps qu'ils remettent de l'ancien, comme dans encore Modern Warfare 1 ou 2, qui étaient les meilleurs, selon moi.
Il y a une portion que j'ai aimée, je dois te dire, c'est quand j'ai vu arriver Kevin Spacey dans le jeu. Là. Puis, tu sais, avant ça, il y a quelques années, c'était probablement le programmeur qui faisait les voix, tu sais, OK, let's go to the war, ha, ha, ha. Puis, il mettait les voix dans les jeux vidéo, ça donnait des jeux plus ou moins immersifs. Mais là, il faut dire qu'une chose, c'est que dans le temps, les jeux vidéo étaient boudés par les acteurs. Ça, c'était comme, ah, c'est un jeu vidéo. Parce que je veux me... jeu vidéo. Aujourd'hui, ben, ils se mettent en ligne pour faire, hey, je veux faire le prochain jeu vidéo parce qu'ils se rendent compte de l'importance, justement, de cette industrie-là, puis du médium en tant que tel, qui est une belle source d'expression. Kevin Spacey, en solo, j'ai aimé l'expérience, j'ai aimé vivre le bonhomme. Ça ressemblait pas mal à ce qu'il faisait dans House of Cards, il faut dire, un peu.
Dans le même personnage.
Même presque. Personnage, ou presque, mais quand même, ça rajoutait une dimension intéressante. Mais d'aller jouer en ligne contre des sauterelles, là, hey man, dong, pis, boum, bam, pouf, pis, bouf, boum, t'es mort. Tu dis, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, c'est lui qui est invisible parce qu'il court sur le mur avec son roquette qui a lancé le truc dans le satellite puis il est venu te pogner. Ah, ben oui, ça se peut. Ça, j'ai moins aimé ça. C'est pour ça que j'aime plus en ce moment, j'aime plus les Battlefield 1, par exemple. Là, c'est la Première Guerre mondiale. T'as un gun de sniper, mais ça n'a pas la portée de 5 km comme avant. Le sniper, il faut qu'il se rapproche plus près. Puis, en étant plus près, ils s'exposent plus. Les vieux chars d'assaut qui peuvent arrêter n'importe quand, les biplans, le Red Baron. L'histoire solo est un peu courte, mais maudit qu'en ligne, il y a le fun. C'est le même engin que Star Wars, on s'entend. Mais je sais pas, il y a quelque chose de plus dans ce jeu-là qui nous fait oublier peut-être la platitude de Star Wars, que j'ai aimé pareil, mais moins. Correct, j'ai pas fâché personne.
J'ai enlevé son micro, c'est pour ça.
OK.
On a une autre question de Luc de la ville de Québec.
Salut Denis, j'aurais une question pour toi.
Oui, Luc.
Est-ce que tu as essayé les jeux vidéo avec la réalité virtuelle, comme
oui.
Oculus Rift, des affaires comme ça? Et qu'est-ce que tu en penses?
J'adore ça. Je suis probablement le meilleur client sur la planète de ce genre de trucs-là. On l'a essayé avec Myriam. Je vous invite à aller regarder ça sur Twitch. Vous allez rire.
Oui, vous allez rire.
T'as tout trempe, man, en sueur. Puis les bébêtes sautaient à gauche et à droite. C'est super drôle.
J'ai pas fait encore, moi.
Non, toi, on voulait... j'ai pas le temps parce que j'arrive chez nous à 11h. Je veux vraiment pas l'essayer parce que j'ai...
Je peux pas faire un jeu d'horreur. Je vais mourir dans tes studios.
J'ai manqué mourir. Pour vrai, là, quand ça te pète d'en face, là, ça te pète solidement d'en face. Puis quand ça te pète ses épaules aussi en X, c'est encore pire. Mais c'est tellement réel, là. T'es dans une ambiance complètement à part, là. T'oublies que t'es dans le studio.
T'oublies tellement, c'est fou. Tu sais, à un moment donné, t'es dedans, puis là, ton mur est là, vraiment. Mais toi, dans la réalité virtuelle, ton mur est là-bas. Fait que si tu te penches, ramasser de quoi, tu t'assommes, ça, c'est sûr. Donc, ça prend de la place. Puis à un moment donné, tu commences à jouer, t'es comme ça. Là, tu joues, tu joues. Là, à un moment donné, tu tournes tellement que tu sais plus où t'es rendu. Fait que quand t'enlèves ton casque, hop, la bibliothèque est là.
Ça fait une demi-heure, tu joues en avant de la bibliothèque, tu sais pas, tu sais.
Je sais pas. C'est vraiment immersif. J'aime beaucoup ça. J'ai fait une rencontre cette semaine. Ah, je ne suis pas supposé vous dire ça. Mettons qu'il y a peut-être des films en VR qui s'en viennent. en réalité virtuelle. Un film. Imagine-toi, tu es assis dans ton salon, tu laisses la place sur une chaise qui pivote et tu es dans un film d'action où tu es dedans, puis tu regardes tout ce qui se passe, puis tu peux participer. C'est tout ce que je vous dirai. Je sens la présence de mon avocat. Mais ça s'en vient. La trame narrative de ces jeux-là est en train d'évoluer. Les créateurs de jeux sont en train de nous offrir des expériences autres que juste faire arriver, tu sais, comme sur le bord d'une falaise, faire ça, puis voir ses mains. Oh, c'est haut, oh, c'est haut. Une fois qu'on l'a vu, le haut, c'est haut, ça manque un peu de viande.
On parlait d'avenir tantôt. C'est carrément ça, l'avenir, je pense, pour le divertissement cinématographique. Peut-être que ce ne sera pas tous les films qui vont être en réel, dans le fond, en virtualité. Mais en même temps, c'est ça, on va en avoir de plus en plus. Moi, je crois que ça va même enlever le 3D. Parce que là, 3D, le 3D, ça existe 3D. Déjà plus, tu sais. C'est juste d'aller plus vers ça, dans le fond, vers le VR.
Mais sérieusement, là, il y a des gros questionnements en ce moment dans les compagnies de jeux pour savoir où on va amener ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, comment on peut changer les... Tu sais, là, ce qu'on nous montre présentement, c'est voler, descendre un peu, avoir peur de tomber, des apparitions soudaines. Mais ça tourne toujours autour de ça. C'est plus des démos techniques en ce moment. Mais d'ici, je dirais Noël l'année prochaine, ça va être fou raide. Ça va être malade. Il va y avoir des affaires qui vont se rajouter. Et puis, on va pousser ça encore plus loin. Si vous n'avez jamais essayé ça, il faut l'essayer au moins une fois dans sa vie. Et le moins cher en ce moment, c'est le PSVR qui est à 600$ avec les taxes. Mais si vous avez des moyens, vous pouvez mettre jusqu'à 5000$. J'ai essayé un casque la semaine passée, fait au Québec. Et c'est encore mieux que les lunettes de Microsoft, dont je trouve le champ de vision beaucoup plus étroit. Lui, tu mets son casque et tu vois partout, tu vois vraiment ce qu'on voit ici, mais ils viennent s'interposer des éléments de réalité augmentée, mais aussi, quand ils pèsent sur la touche du clavier, la réalité virtuelle. J'ai essayé un simulateur d'hélicoptère. Hey, j'étais dedans, à Simonac, on me promenait, mon ami, les missiles qui passaient, les oiseaux, puis c'était l'enfer. Il pèse sur le piton, puis ça s'enlève. Non, continue, j'ai pas fini. C'est vraiment immersif.
On va avoir une passe de gamic, puis quand ils vont se trouver éventuellement, là, on va avoir vraiment des super de belles découvertes. Là.
Écoute, si vous n'avez pas essayé la réalité augmentée ou virtuelle, go for it.
Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a encore un challenge, par exemple, là-dessus, pour amener ça familial encore, tu sais. Pour le moment, on joue plus individuel, c'est plus pour le jeu. Là, on va mettre ça bientôt pour le cinéma. Ouais. Vraiment, la twist, ça va être de comment qu'on va réussir à amener ça pour être encore en famille, mais avoir tout un casque d'en face.
Un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas ce que ça fait sur le cerveau des plus jeunes en ce moment. Moi, mon fils voulait l'essayer l'autre fois, j'ai mis un truc avec des poissons, là, c'était cool. Tu dis, les poissons, mais c'est plate, il n'y a pas de gun. Ouais, mais t'as 8 ans, là. Les guns, on ira tirer tantôt dehors. Mais, mais sérieusement, on ne sait pas ce que ça fait encore. C'est trop nouveau comme phénomène pour savoir ce que ça fait sur le cerveau des enfants. C'est pour ça qu'on recommande de commencer à 13 ans. Come on, ouais, j'ai 10 ans, moi je suis capable, je le sais bien, mais c'est ce qui est recommandé, ils se protègent également, peut-être contre des poursuites
éventuelles. Au cas où, à long terme, on découvre des choses.
Mais c'est maudit que c'est le fun, puis j'ai hâte de voir les univers dans lesquels ils vont nous amener, puis de voir à long terme ce que ça fait dans la tête, cette histoire-là. Tu sais, quand tu te couches le soir, là, t'as-tu rêvé dernière fois?
Oui, j'ai rêvé beaucoup, moi, cette nuit, entre la nuit de mardi à mercredi, j'ai rêvé beaucoup.
Y avait-tu des zombies qui te couraient après?
Il n'y avait pas de zombies, il y avait des clowns.
C'est pire.
Pire.
Alors voilà, essayez ça, la réalité augmentée ou virtuelle. Augmentée, ça s'en vient. Virtuelle, vous pouvez l'essayer maintenant. Autre question, Cliff?
Oui, merci. Notre prochaine question, c'est de Philippe de Saguenay.
Bonjour Denis, bonjour Benoît et Myriam.
Hello.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des jeux en early access. On en voit de plus en plus sur Internet.
Oui, c'est une bonne question. Vas-y.
Moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui, ça fait 7 ans, n'est pas sorti encore le jeu. Fait que je peux en dire des affaires. Et la compagnie est... Non, c'est pas vrai.
Pour le montant
vous? Non, on fera pas ça.
Non, je fais pas ça, mais ça dépend. Je pense que les gens sous-estiment la tâche que c'est. Surtout s'ils n'ont pas travaillé dans le jeu vidéo avant. Puis ça, c'est un danger. Juste remettre les perks, donc les récompenses que les gens ont commandées quand ils t'ont donné l'argent, c'est déjà une tâche qui est phénoménale. Il y a comme une para-industrie qui s'est développée pour que ça se réalise. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Dans le cas de la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, ils ont fait ça pendant 4 ans. C'est énorme. Alors ça, c'est déjà une tâche. Là, après, tu as la tâche de développer un jeu, de répondre à des gens qui, moindrement que tu ne livres pas, peuvent
c'est
te
de la merde, ton affaire.
Ils peuvent te sauter dessus, c'est très dangereux. Il faut que tu t'entretiennes ta communauté.
Va tuer tes enfants!
Mais ce que j'aime, c'est que t'as les indies, maintenant, ils ont un pouvoir dans une industrie qui était contrôlée par des gens qui avaient beaucoup d'argent. Fait que t'as des gros côtés négatifs, mais t'as aussi des côtés très, très positifs.
Mais, parce qu'il y a eu une controverse là-dessus, parce que des gens disaient, ouais, ils mettent le jeu en Early Access, ils prennent notre argent, mais finalement, ils livrent jamais le jeu. C'est arrivé, malheureusement.
C'est un risque.
Mais il y a des compagnies que je connais très bien, de l'indépendant, qui vont chercher justement certains gens-là, et ça leur permet d'avancer le développement. Kona, c'est un jeu comme ça. S'il n'y avait pas eu le Early Access, ça n'aurait pas pu continuer. Et là, le jeu est sur le point de sortir et d'être lancé. Mais c'est un couteau à deux tranchants. C'est comme un gamble.
C'est à deux tranchants, mais ça donne une belle visibilité. Puis il y a beaucoup de développeurs, justement, qui, grâce à ça, ont pu justement sortir temps, avoir tout l'argent et ensuite d'en faire plus. Donc, je crois qu'il y a peut-être plus de... Selon moi, je pense qu'il y a peut-être plus de réussite que de mauvaises histoires avec ça.
J'ai pas de chiffres pour corroborer tout ça, mais il y en a eu des mauvais trucs. Mais une affaire que j'ai trouvé bien le fun, c'est qu'une gang qui devait... C'était un Kickstarter sur un film qui devait sortir. Puis dans le film, c'est des gens qui sont des croches un peu, qui se partent un Kickstarter, mais qui livrent jamais le produit, puis ils partent sur le party. Fait qu'ils ont produit leur film... ils ont reproduit sur leur Kickstarter ce que le film proposait. Puis à un moment donné, il y a eu un silence radio sur le Kickstarter, plus rien. Là, le monde s'est mis à gueuler. Mais pendant ce temps-là, eux autres faisaient le film pour le vrai. Et le film a été lancé, puis ça a été la meilleure pub qu'ils ont eue.
Oui,
tout le monde en a parlé à travers le monde. C'est des crosseurs, Kickstarter, c'est de la merde. Tu avais des éditoriaux là, à Fox, c'était tellement drôle. Kickstarter, c'est full of... c'est de la bullshit. Puis eux autres, ils devaient être morts de rire. Puis un mois après, le film est sorti, il sort en salle. Merci beaucoup, Kickstarter. Yeah. Fait qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui ont su jouer avec ça. Mais les trucs comme ça, les accès anticipés, moi, si le jeu me plaît, je donne un 10, je donne un 20, puis si ça peut les aider, tant mieux. Puis à date, je ne me suis pas fait flouer, moi.
Alors, on a une dernière question de Carl de Chicoutimi.
Chicoutimi! Ouais.
Moi, ma question serait pour Ben, savoir des nouvelles du studio en développement, avoir...
Il s'en vient.
Ah, c'est un accent anticipé, ça?
J'ai vu la peinture
c'est de l'accent
cette semaine.
Anticipé.
Justement, j'ai payé l'early access.
Bon, ben, il part à courir. Ben, pour les gens qui ne savent pas, on a fait un Kickstarter. Ben, pas Kickstarter, mais un Indiegogo pour les mystérieux, pour se construire un studio, pour devenir complètement indépendant. Ça faisait 10 ans qu'on était dans une station, puis là, on développe ça. Là, ce qui reste, c'est, je te dirais, esthétique. C'est l'aréation. Ça, c'est moins esthétique, c'est de pas crever, là, mais... mais l'aréation, après, je vais m'assurer aussi que le son, au niveau de la qualité de sonore, ça soit bien. Mais là, je parle de la salle. Donc, il y a une couche d'isolation qu'il faut que je rajoute. Puis après, je veux que ça look. Parce qu'avant, on faisait pas ça vidéo, mais là, je veux faire ça vidéo en plus. Fait que c'est essentiellement ce qui reste. Puis c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi j'ai jamais donné de date de sortie du studio. Parce que je savais qu'il allait avoir des délais, des retards. Mon contremaître, il vient de Québec. Fait qu'à chaque fois, il fait le voyagement. Là, il va revenir en novembre, puis après, on va réévaluer. Mais on a bien hâte. Nous autres, les gars, on fait ça à chaque semaine depuis des années puis des années. Fait que là, en ce moment, je sens un manque réel de faire le show. Puis récemment, pour ceux qui écoutent le podcast, je voyais Jake, puis je suis comme... On n'en a rien à se dire, finalement, si on n'a pas le podcast ensemble. Donc, mais on va probablement... Si ça prend tout le temps, on va faire le podcast pareil de chez moi, puis après, on va transposer au studio.
Ouais, avec ton lit avec la couverte carottée, hein?
Oui, mon lit avec ma couverture.
Même les posters en arrière, c'est beau.
Ouais. On fait ça dans ma cuisine. Il y a un gros poster de Transformers.
Moi, je pour ta cuisine.
As-tu une petite dernière ou pas vraiment, Cliff?
Malheureusement.
Ah, non, monsieur, attends un peu.
On a une petite dernière?
Oh, ouais, une petite dernière. Il y a juste là, okay. je l'ouvre.
C'est où? Oh.
Attends, pas que ça.
Regarde, tu me fais faire de l'exercice, là. Oh, ça va faire mal.
Madame, monsieur Cliff!
Bonjour la gang, bonjour tout le monde.
Salut.
La question s'adresse plus à Denis. Denis, moi, peut-être t'en as déjà parlé, mais j'aimerais ça peut-être un refreshing là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à partir du Grand Talbot? Parce que moi, je te connais depuis ce temps-là, du temps où c'est que t'embarquais dans le char du blindé de la SQ tout, à Monsieur Net. Tu sais, parce que là, tu es parti d'un monde, tu sautes en parachute, tu travailles avec des pompiers, tu fais ci à ça, à t'es plugué à un ordinateur. Puis tu fais juste de l'information, tu sais, geek, puis tout, puis ce qui est super plaisant, parce que moi, je te suis depuis que je suis tout petit, puis je suis tombé là-dedans aussi. Là, donc...
J'ai commencé très jeune, hein, tu sais.
Ouais. T'avais les cheveux longs, il me semble, hein?
Là, c'est des mèches.
Avec mais, un
pad. Non, écoute, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que quand t'as fait 4 ou 5 ans, peut-être 6 quasiment, des aventures du Grand Talbot, puis t'as sauté partout, t'es pitché... hier, c'est drôle, parce que... quand j'ai fait mon tour de F18, j'ai dealé avec un gars qui s'appelle Pierre Bété. Hier, j'étais à la chambre d'hôtel, le téléphone sonne, Talbot, c'est Pierre Bété. Je vois, pardon. Je reste à Québec. Puis on est allé prendre une bière, puis on s'est rappelé un paquet de souvenirs qu'on avait fait comme ça. Mais écoute, moi, l'armée, c'était rendu mon Disney World. Hey, je vais faire de la centrifuge, OK? On va appeler à Trenton. Puis il venait me chercher, chez nous.
En hélicoptère.
Je descendais là-bas, puis on partait. Puis c'était le fun. Mais quand t'as sauté en parachute, j'ai été chanceux avec la job parce que j'étais allé en Chine, au Japon. Pas en Chine, pas vrai. Japon, j'étais allé en Australie. J'ai voyagé partout avec ce maudit job-là. C'était un travail difficile, mais quelqu'un devait le faire. Mais avant Jackass, je n'ai jamais taqué le petit paquet sur un plywood. Ça, là, j'aurais dû faire ça, peut-être que je serais encore là, mais pas de petit paquet. Mais en tout cas, ça pour te dire que à un moment donné, j'avais fait le tour. Puis après 5 ans et demi, 6 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Je me souviendrai toujours, il pleuvait beaucoup une journée. Puis on s'est dit, on devait aller faire du Grand Prix. Ouais, mais j'ai Grand Prix 2, on va installer un ordinateur. Puis, ouais, mais tu sais, plate, juste te voir conduire un ordinateur. Ouais, c'est vrai. On va aller chercher quelqu'un de la SQ. Puis je vais prendre un coup à partir de 10 heures le matin. Puis on va voir si mes performances, tu sais, c'est montrer aux gens que c'est pas bien conduire et jouer aux jeux vidéo. Non, ben, je pouvais pas l'essayer sur un circuit. Fait que finalement, on a fait ça, puis à un moment donné, je mangeais des coups de pied en dessous de la table, je vais toujours m'en souvenir. Le gars de la SQ était là, arrête, tu vas plus vite, ton temps est meilleur, arrête, ton temps est meilleur. Buvez pas et conduire, c'est pas ça que je dis. Mais ça a commencé comme ça, tranquillement, pas vite, et puis là, à un moment donné, Ubisoft est arrivé. On s'est dit, hey, pourquoi pas faire un show sur les jeux vidéo, il n'y en a pas nulle part à la TV. Mais tranquillement, c'est né comme ça. Puis ce qui était le fun d'avoir fait les aventures du Grand Talbot, j'ai fini dans une seconde. OK. C'est que j'avais essayé toutes les niaiseries qu'on nous proposait, les simulateurs de vol, les simulateurs de course, le NASCAR, j'avais fait du casqueur, la F1, j'avais fait de l'antichambre de la F1. Fait que d'avoir essayé tout ça, ça m'a permis d'évaluer les jeux vidéo mieux. Fait, même, tu sais, avec la SQ, j'allais tirer toutes sortes d'affaires. On a eu tellement de fun. Je sais pas, je me suis acheté un M16 et je vais aller tirer tantôt dans le Québec.
OK.
Les jeux vidéo, c'est violent!
Alors, de la part de toute la foule qui est ici et du Comic-Con, j'aimerais te remercier d'avoir apporté les collaborateurs d'être ici à Québec, de continuer ce que tu fais parce que tu es notre voix.
Merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont ici, les podcasteurs, la gang des pics. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Continuez de faire ce que vous faites, puis on est une petite communauté, on se tient, puis ça va grandir avec le temps. Merci à mes collègues également. Merci à Cliff, l'invitation.
Merci, Denis.
Merci, Facebook.
Voilà, mesdames, messieurs, c'était notre conférence de presse. On a eu beaucoup de plaisir à la conférence de presse. Même pas une conférence de presse, en fait, c'était une rencontre impromptue comme ça avec Cliff et l'organisation justement là-bas qui nous a permis de rencontrer les gens qui étaient dans la salle. Ça a été très, très cool. C'était bien le fun. On s'est amusé follement. Alors, si jamais il y a un Comic-Con pas loin de chez vous, allez-y, allez vous amuser, allez faire un tour, allez rencontrer ces gens-là qui mettent énormément de temps pour faire leur costume, mais également pour vivre leur passion. Et merci à vous autres d'avoir été là ce soir pour ce résumé du Comic-Con à Québec. Et probablement qu'on va être là l'année prochaine. Du moins, je le souhaite. Moi, j'ai bien aimé mon expérience. Mon nom est Denis Talbot. Passez une belle soirée. On se retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde.
Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé?
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire, déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire, en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votre conseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votre conseiller.net. Une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. radiotalbot@gmail.com